Alors, ce matin, j'aimerais partir d'un texte qui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Il s'affiche derrière vous. Vous pouvez le suivre à l'écran, le suivre dans vos Bibles, comme vous préférez. Jean, chapitre 10, à partir du verset 7. Jésus leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Nous avons là une déclaration de Jésus. Une déclaration qui est tirée dans un passage plus long. Un passage qui est une controverse sur l'autorité de Jésus. Il y a les religieux, l'intelligentsia religieuse qui cherche à limiter Jésus, à ce qu'il n'en fasse pas trop, il les dérange un peu. Et là, dans le passage, depuis le début du chapitre 9, où Jésus a fait une guérison vraiment spectaculaire, ils sont en train de le chipoter. Et du coup, on a tout un discours où il explique qui il est, et il l'explique de façon un peu polémique. Et dans ce passage, il dit qu'il est le seul vrai guide. Que les autres guides n'ont pas la même dimension que lui, qu'ils ne peuvent pas apporter les mêmes bienfaits, que s'ils le promettent, ce sont des menteurs, et si nous, nous plaçons notre espérance en eux, nous nous trompons. À l'époque, les religieux, ceux qui disent Jésus, ils sont cibles de cette attaque, ambiance. Mais, au-delà de ce contexte polémique, ce texte porte aussi positivement une belle déclaration. La belle déclaration qu'en Jésus se trouve la vie. Et pas seulement la vie éternelle où on entendrait la vie après la mort, une vie à venir, mais une vie pour aujourd'hui, une vie en abondance, pour aujourd'hui, pour celui qui vient à lui et qui entre dans cette nouvelle vie qu'il propose. Et ça, au-delà des conflits avec les religieux de l'époque, c'est une belle perspective pour nous. Jésus, qui vient nous apporter la vie, la porte par laquelle on peut entrer dans la vie. Peut-être êtes-vous étonné du choix de ce texte pour ce matin, en particulier si vous pensiez connaître le sujet de la prédication. Parce que tous les premiers dimanches du mois, depuis quelques mois maintenant, nous prêchons sur notre projet d'église. Notre projet d'église qui est des disciples qui font des disciples. Nous voulons être des disciples qui, à leur tour, font des disciples de Jésus-Christ. Et ce projet se décompose en cinq mouvements successifs. Vous vous souvenez des cinq mouvements ? Ouais, il y a des gens qui travaillent bien en groupe de maison. Inviter, accueillir, baptiser, enseigner et envoyer. Il y a deux mois, nous avons parlé de ce premier mouvement, inviter. Inviter mon prochain, c'est-à-dire n'importe qui, celui que Dieu place sur ma route. Comme dans la parabole du bon samaritain, celui que je suis surpris de trouver là. Nous voulons les inviter à Jésus, vers Jésus, et en disant que l'Église, nous voulons que ce soit un bon lieu qui montre Jésus. Inviter, c'est plus que tendre un flyer d'invitation au prochain culte découverte. Inviter, c'est être disponible pour l'autre. Être prêt à se pencher sur ses besoins concrets. Le mois dernier, nous nous sommes penchés sur notre deuxième mouvement, accueillir. Accueillir, c'est-à-dire aller vers l'autre. Oser le contact, même avec ceux que nous ne sommes pas censés côtoyer. Accueillir, c'est aussi avoir conscience que nous avons quelque chose à offrir. Que ce que nous vivons avec Jésus, c'est précieux. C'est bon pour les autres. Et accueillir comme accepter. Accepter les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leurs péchés, sans les juger, mais pour les diriger vers le Seigneur. Accueillir, c'est plus que dire bonjour à la porte, dire bonjour à ceux qui passent. Accueillir, c'est faire une place pour l'autre, à côté de nous, dans nos préoccupations. Vivre un accueil véritable. Et donc le troisième mouvement, c'est baptiser. D'où peut-être le questionnement concernant le texte que nous avons lu. Un texte où il n'y a même pas d'eau. Pourquoi utiliser ce texte pour parler de ce troisième mouvement? La réponse n'est pas forcément immédiate. Pour la comprendre, il faut considérer ce mouvement comme l'étape suivante dans notre projet d'Église, comme une progression après les deux premiers mouvements. Si on a vécu ces deux premiers mouvements, qu'on accueille largement, qu'on invite largement, qu'on accueille en vérité, si nous avons réussi à cela, alors on aura obtenu une communauté accueillante. Un lieu où tous les dimanches, de nouvelles personnes viennent pour voir, parce qu'elles ont été invitées, parce qu'elles veulent voir, qu'elles veulent découvrir. Et un lieu non seulement où les personnes viennent, mais aussi où elles se sentent bien. Que ces personnes soient chrétiennes ou non, qu'elles puissent trouver parmi nous quelque chose de bienfaisant. Et c'est ma prière pour notre Église, que nous soyons un lieu attrayant, un lieu ouvert, et qu'en tant qu'Église, nous réjouissions de faire du bien aux gens. Amen. Mais si on vit dans une telle Église, ça pose une question. Si tous sont les bienvenus, que tous viennent et que tous reviennent, alors, lors de nos réunions, nous aurons un environnement disparate, à la fois des chrétiens solides qui sont là depuis toujours et à la fois des nouveaux venus qui ne savent pas bien où ils sont, qui sont curieux. Et ça nous laisse avec cette question, qui, dans cette foule, est disciple de Jésus-Christ? Peut-être vous avez envie de me répondre, cette question, on s'en moque. C'est sans importance, vient qui veut, Dieu voit au fond des cœurs, c'est pas à nous de dire. Personnellement, je nuancerai. Dieu voit au fond des cœurs, c'est vrai. Nous ne pouvons juger que sur ce que nous voyons et que nous entendons. Mais la sincérité des cœurs, nous n'y avons pas accès. Et pour pousser la réflexion plus loin, il est fort probable que le jour où le Seigneur reviendra, le jour du jugement dernier, nous voyons que Dieu accueille certains que nous serons bien étonnés de voir là. Et peut-être à l'inverse, que nous voyons refuser des personnes que pourtant nous pensions voir rentrer. Dieu seul voit au fond des cœurs. Mais de là à dire « on s'en moque », c'est aller un peu trop loin à mon avis. Si nous sommes appelés, comme nous le croyons, à faire des disciples, il va bien falloir que nous ayons une idée sur là où en sont nos interlocuteurs, afin de pouvoir stimuler à aller plus loin avec le Seigneur. Mais sur une question pratique également, nous devons avoir une idée pour exercer notre ministère en tant qu'Église, pour ensemble faire ce à quoi Dieu nous appelle. Comment est-ce que nous fonctionnons ensemble? J'aimerais lire ce texte-là, un petit peu long, mais j'ai mis en orange les passages qui m'intéressent. C'est un texte de notre fédération qui nous dit comment nous fonctionnons ensemble. Chaque église locale est autonome et indépendante, tout en étant cependant en relation libre, fraternelle et affective avec les autres églises. L'église n'a d'autre chef que Jésus-Christ. Celui-ci exprime sa volonté et ses directives dans la communauté tout entière. Et c'est l'Église qui l'interprète. L'Église s'efforce à travers ses faiblesses de se laisser conduire par cette volonté. Nous croyons à la complète et absolue égalité spirituelle de tous les croyants. C'est pourquoi les décisions de l'Église, cherchant à interpréter la volonté du Seigneur, ne peuvent être prises qu'au cours d'un vote à la majorité des voix. Ce texte exprime ce que nous croyons en tant qu'Église baptiste. Nous croyons que c'est ensemble que nous agissons, que c'est ensemble que nous décidons. Et pour pouvoir être fidèles à Dieu dans ce que nous faisons ensemble, nous devons nous efforcer de constituer un ensemble qui soit d'accord sur le fait que Jésus est l'autorité. Donc être chrétien, savoir qui est chrétien, on ne peut pas s'en moquer complètement. De même, on ne peut pas dire que c'est sans importance. En lisant la Bible, on va constater assez rapidement que souvent, à plusieurs reprises, Jésus parle d'un tri qui est fait entre ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. Vous vous souvenez peut-être de la parabole des deux maisons, celui qui construit sa maison sur le sable, celui qui a construit sur le roc. Il y a un bon choix, un mauvais. Ou alors, le discours de Jésus sur le jugement dernier, où il appelle à sa droite les brebis et qu'il écarte à sa gauche les chèvres. Ce n'est pas sans importance. La Bible et Jésus y mettent de l'importance. Qui est disciple de Jésus-Christ? Si on regarde notre texte, le texte de Jean 10 que nous avons lu au début, on a une réponse. Celui qui est disciple, c'est celui qui est passé par la porte qu'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes rassurés que brusquement tout s'éclaircit. Jésus est clair, mais pas forcément compréhensible. Il est la porte, mais quelle porte parle-t-il? Quelle est cette porte? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer par la porte? D'autres se sont posé cette question avant nous. Et je pense à la foule qui a écouté Pierre le jour de la Pentecôte. Le jour dans la Pentecôte, dans Acte 2, Pierre a prêché devant une foule. Il a prêché dans la continuité de l'enseignement de Jésus. Et il leur a dit que ce qui passait, ce qui était en train de se passer ce jour-là, c'était le début d'une nouvelle vie. Une vie sous la conduite du Saint-Esprit, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Et Pierre a bien parlé, puisque après avoir entendu cela, ceux qui l'écoutaient eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? Que devons-nous faire pour passer par cette porte ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. » Et ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Que faut-il faire pour passer par la porte qu'est Jésus-Christ ? Je vois trois choses. Changer radicalement. Recevoir le baptême. Et rejoindre l'Église. Être ajouté à la communauté. Et si je retenais un seul mot pour dire cela, je dirais baptême. Comme Jésus lui-même a dit, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Baptisez, comme un commandement central dans la mission que Jésus confie. Pourquoi regrouper ces trois pas dans le même mouvement ? Changer radicalement, recevoir le baptême et rejoindre l'Église. Pourquoi les regrouper ? À cause de la signification du baptême. Je ne vais pas, par manque de temps, étudier ici les textes qu'on étudie lors de la préparation du baptême. Mais le baptême porte la marque symbolique d'un changement de vie. En plongeant dans l'eau, nous mimons la mort à notre ancienne vie, à notre vie sans Jésus. Et nous disons que nous voulons laisser cette vie, que nous sommes morts à cette vie pour nous-mêmes. Et en ressortant de l'eau, eh bien, nous commençons une nouvelle vie par l'Esprit, à la suite de Jésus-Christ, le premier ressuscité. Et du coup, on voit avec la signification de ce geste que le baptême est indissociable de ce que nous appelons la conversion, et qui est traduit dans la traduction que j'ai lue tout à l'heure, le changement radical, c'est-à-dire faire demi-tour. La conversion, c'est la décision personnelle de suivre Jésus-Christ. Le baptême, c'est la confirmation publique et mimée, conforme à ce que Jésus a demandé, le premier acte d'obéissance. De même, le baptême est indissociable de l'entrée dans l'Église. L'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, de ceux qui ont débuté une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Alors, parfois on entend l'objection, je fais partie de l'Église universelle, je n'ai pas besoin de faire partie d'une Église particulière. Il ne faut pas oublier que l'Église, ce n'est pas la liste de ceux qui sont des chrétiens. L'Église, c'est le peuple que Dieu s'est acquis pour remplir sa mission. L'Église, ce n'est pas un ensemble statique qui regroupe ceux qui sont passés par une étape. C'est un ensemble dynamique que Dieu s'est constitué pour être dans l'action, pour sa mission. Participer à cette mission, c'est du concret. Et je pense qu'il est logique de rejoindre officiellement une communauté locale, une communauté qui est au sein de l'Église universelle, de rejoindre un lieu pour vivre sa foi, pour prendre part à un projet, de rejoindre un lieu où on peut concrètement compter sur des frères et sœurs et on veut leur dire aussi « Je veux compter sur toi ». Rejoindre une église, s'y attacher, dans nos pratiques, devenir membre, comme continuité du baptême. La démonstration est peut-être un peu longue, mais si on veut être une église accueillante, il faut bien la comprendre. Vous vous souvenez peut-être de ce schéma qui décrit notre église par des cercles concentriques. Il y a différents cercles, depuis les personnes, notre prochain, que nous voulons inviter, puis qui va venir une fois pour voir, les réguliers qui se plaisent parmi nous et reviennent, les membres qui ont choisi de s'attacher à l'église de façon officielle, puis en continuant, les membres de plus en plus mûrs jusqu'à ceux qui sont moteurs de l'église. Mais il y a une limite importante ici, une étape à passer, et cette étape, c'est le baptême. C'est la limite entre les visiteurs occasionnels ou réguliers, qui sont les bienvenus, et ceux qui ont choisi de s'attacher à l'Église et de vouloir le dire, de vouloir le faire concrètement. Vous comprenez qu'ainsi désigné, le baptême, c'est plus que l'immersion. C'est aussi la conversion qui a précédé l'immersion et l'attachement à l'Église qui suit cette immersion. Du coup, baptiser, c'est accompagner ce mouvement. Et j'espère que vous êtes convaincus qu'il n'y a pas besoin d'être seulement le pasteur ou les anciens qui descendent dans le baptistère pour participer à ce troisième mouvement de notre projet d'Église. Comment baptiser? Comment pouvons-nous tous ensemble baptiser? Trois principes que je vous propose. Le premier principe, c'est prendre conscience de l'importance de cette étape. Parce que je crains que nous la négligions parfois. En amont, l'accueil est une de nos valeurs, une des choses qui comptent pour nous. Nous sommes heureux de voir de nouvelles têtes. Nous sommes heureux de voir des gens qui se plaisent parmi nous et qui s'installent. En aval, nous sommes heureux de voir les gens s'engager, de bénéficier de nouveaux dons. L'engagement aussi est une de nos valeurs et nous déployons du zèle à partager le travail de l'Église. Mais gardons en tête combien passer par la porte est important. Et je crois même qu'inviter à passer par la porte qu'est Jésus-Christ est le centre de notre mission, le point central de la mission que Jésus confie à son Église. Le deuxième principe que je vous propose, c'est de prier, et de prier avec persévérance. À toutes les étapes de notre projet d'Église, nous comptons sur Dieu et sur l'Esprit Saint, qui travaille dans les cœurs, alors que nous, on ne peut pas grand-chose. Ceux que nous invitons à l'Église, nous comptons sur l'Esprit Saint pour que Dieu, pour qu'il fasse tomber les barrières et qu'il vienne passer les portes. Ceux que nous accueillons du mieux que nous pouvons, du mieux que nous savons faire. Nous comptons sur Dieu pour qu'ils soient touchés et qu'ils aient soif de recevoir plus de la part de Dieu. Et puis après, ceux que nous enseignons, nous comptons sur l'Esprit pour les sanctifier, pour les transformer intérieurement, pour les renouveler. Jusqu'à l'envoi, où là encore, nous comptons sur l'Esprit Dieu pour refaire sentir aux personnes l'appel à servir spécifiquement dans tel ou tel domaine. À toutes les étapes, nous comptons sur l'Esprit Saint. Ce projet d'Église, nous ne le menons pas seul, mais à cette étape, nous comptons sur lui, plus que sur les autres. La Bible le dit, dans 1 Corinthiens 12, « Personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. » Nous devons prier que Dieu touche les cœurs, qu'il révèle à ceux qui sont à la périphérie que Jésus est la vérité, qu'il est la seule porte qui permet d'avoir la vie en abondance. Lui seul peut convaincre, alors prions avec persévérance. Et puis, le troisième principe, je dis encourager avec créativité. Encourager à passer à travers la porte. Faisons entendre l'appel du Seigneur. Relayons cet appel. Dans l'Épître aux Romains, Paul pose cette question. Comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Mes amis, aussi bizarre que cela puisse paraître, le Seigneur compte sur nous. Il compte sur vous pour relayer son appel. Il nous faut le faire, et il nous faut tous le faire. Les prédicateurs, bien entendu, mais un contact, un à un, nous pouvons le faire également, pour relayer cet appel, pour témoigner de ce que nous avons répondu personnellement. Dieu a donné à son Église une multitude de personnes qui sont une multitude de voix pour dire les choses de façon fidèle mais différente, afin que chacun puisse entendre quelque chose qui lui parle. Alors, ne nous taisons pas. Partageons l'appel de Jésus qui dit « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » J'aimerais terminer cette prédication par un exemple. J'aimerais que nous prenions quelques minutes pour écouter un chant qui relaie l'appel du Seigneur. Ce chant, ça peut être une inspiration pour nous, pour le relayer à notre tour. Ou alors, ça peut aussi, pour ceux qui parmi nous ce matin sont sur le pas de la porte, ça peut être pour vous, une interpellation.